22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et une prise d'otage est en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Deux surveillants retenus, c'est dans cette prison qu'un détenu radicalisé avait déjà attaqué deux surveillants début mars. On vous donne les dernières infos dans un instant avec Jean-Gabriel Bourgeois. On ne peut plus faire face à la détresse des personnels des hôpitaux. Déçus par leur rencontre avec un représentant de la ministre de la Santé, ils promettent d'amplifier le mouvement. Emmanuel Macron fait son autocritique, évoquant la crise des Gilets jaunes. Il reconnaît avoir peut-être parfois construit des réponses trop loin des concitoyens. C'était une erreur, dit-il. Un nouveau super loto du patrimoine, le 14 juillet. Il va permettre de sauver 121 sites au total en France, parce qu'il n'y a pas que Notre-Dame et parce qu'il n'y a pas que les filles qui jouent au foot. On part tout de suite retrouver Cyril de la Morinerie à Andorre, où les Bleus jouent leur quatrième match qualificatif pour l'Euro. Trois buts en première mi-temps. Pour l'instant, tout roule, Cyril. Finalement, ils sont plutôt bien faits au gazon synthétique, on dirait.
Oui, et à Andorre, effectivement, 58 minutes de jeu, 3-0, but marqué par Mbappé à la 11e minute. Le deuxième but de Ben Yedder à la 29e et à la 45e, juste avant la mi-temps. Un superbe ciseau du gauche de Florian Thauvin. Ben Yedder et Thauvin qui marquent d'ailleurs leur premier but en bleu. 3-0.
Merci beaucoup. Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera bien évidemment plus longuement dans le courant de cette journée. Il fait froid ce soir en Andorre. Pour demain, côté météo, ça va s'améliorer chez nous sur le sud et l'est. En revanche, sur le nord-ouest, le ciel va rester instable, ponctué d'averses localement orageuses avec de la grêle. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Hugues Ouvrard, il est le directeur de Xbox France et il sera en duplex de Los Angeles, alors que se tient en ce moment aux États-Unis le plus grand salon des jeux vidéo.
Europe 1.
Et je vous le disais, une prise d'otage est donc en cours en ce moment dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, cette même prison où un détenu radicalisé avait attaqué, on s'en souvient, deux surveillants début mars. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir Isabelle.
Quelles sont les informations dont on dispose?
Eh bien, ce qu'on sait ce soir, c'est que vers 19h, au moment du repas, un détenu a pris en otage deux gardiens de cette prison sous la menace d'une arme artisanale. Selon le syndicat EFO pénitentiaire que j'ai pu joindre, l'homme était chargé de distribuer le repas à ses co-détenus quand il a profité de ce moment pour prendre en otage un surveillant titulaire et une surveillante stagiaire. Selon plusieurs sources, le preneur d'otage est un habitué des faits. Condamné pour viol, il est derrière les barreaux depuis avril 2000 et n'est jamais ressorti de prison. Il a aujourd'hui 35 ans et a déjà au moins 5 autres prises d'otages en détention à son actif. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité de la pénitentiaire ainsi que le procureur sont sur place depuis moins d'une heure aux côtés des gardiens de prison de Condé-sur-Sarthe, solidaires de leurs collègues retenus en otage et choqués 3 mois tout juste après une autre prise d'otage dans la même prison par un détenu radicalisé. Une cellule de crise a ce soir été activée au ministère de la Justice.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. On va évidemment continuer à suivre ça de très près tout au long de la soirée. Le malaise à l'hôpital, il a commencé aux urgences il y a 3 mois, mais aujourd'hui c'est tout le personnel qui a voulu faire entendre sa voix, tous les services hospitaliers pour dire la souffrance, la surcharge de travail, les violences, les salaires qui ne suivent pas. Une journée de mobilisation nationale alors que le Sénat votait justement la loi santé ce soir, texte qui instaure la suppression du numerus clausus, qui prévoit le développement des hôpitaux de proximité ou encore la régularisation des médecins étrangers. Les représentants syndicaux ont été reçus à Paris par le directeur adjoint du cabinet de la ministre et à leur sortie, ils n'ont pas caché leur déception, à l'image de l'urgentiste Christophe Prudhomme de la CGT Santé.
Nous avons été reçus de nouveau par le directeur adjoint de cabinet qui n'avait pas grand-chose de plus à nous dire que jeudi dernier. On sent bien que le mouvement les inquiète, mais par contre, aucune réponse sur les effectifs. Vous savez qu'on a chiffré les besoins rien que pour les services d'urgence à 10 000 emplois et pour l'hôpital, un plan de rattrapage de 100 000 emplois.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer là très concrètement de votre côté?
De notre côté, vous savez, nous sommes à une centaine de services d'urgence en grève. Certains endroits comme à Bourges, c'est l'ensemble de l'hôpital qui est en grève. Nous allons étendre le mouvement pour que le gouvernement comprenne qu'il y avait moins une crise grave. Certains de mes collègues ont parlé de la nécessité d'un plan Marshall pour l'hôpital public. Donc voilà, un plan Marshall, c'est quand même une expression forte.
Voilà, Christophe Prudhomme de la CGT Santé, joint pour Europe 1 par Mélanie Gomez. Vous l'avez entendu, ce mouvement de colère et de grève dans les hôpitaux va donc s'intensifier. À noter que le projet de loi santé qui a été adopté ce soir par le Sénat prévoit également de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. La crise des Gilets jaunes et le mea culpa aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le président s'exprimait devant l'Organisation internationale du travail à Genève. Il a mis en garde contre les dérives d'un capitalisme fou qui profite de plus en plus à quelques-uns. Et le chef de l'État s'est livré à une autocritique politique alors qu'il évoquait l'agitation sociale des derniers mois en France.
Je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Nos concitoyens veulent plus de proximité et plus d'humanité. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Je l'ai dit avec force, je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur.
Emmanuel Macron à Genève cet après-midi au micro Europe 1 d'Olivier Samin. C'est demain qu'Édouard Philippe prononcera son discours de politique générale qui marquera l'acte 2 du quinquennat. Et après le bon score des écologistes aux européennes, le Premier ministre est notamment très attendu au tournant sur les questions d'environnement. Alors que le gouvernement doit présenter le mois prochain sa réforme des retraites, une donnée avec laquelle il faudra composer, les prévisions de déficit du système de retraite sont revues nettement à la hausse à 10 milliards d'euros à l'horizon 2022. C'est-à-dire deux fois plus qu'estimé l'an dernier.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h06 et la traque se poursuit à Lorient pour tenter de retrouver le chauffard qui a tué un enfant et en a grièvement blessé un autre. Un appel à témoins a été lancé avec les photos du suspect et de sa passagère. Appel à témoins que vous pourrez trouver sur notre site internet europe1.fr. La mort du conducteur d'une trottinette hier soir à Paris. Un jeune homme de 25 ans percuté par un camion alors qu'il avait grillé une priorité. Un drame qui alerte une nouvelle fois sur le danger de ses engins. Le procès Balkany entre dans sa dernière ligne droite. Ça fait 4 semaines maintenant qu'il a commencé. Le réquisitoire est prévu jeudi. Patrick Balkany, qui jusque-là s'est montré toujours très affable devant les caméras comme devant le tribunal, reconnaît aujourd'hui que ce procès a aussi été pour lui et ses proches une souffrance.
Bien sûr que j'ai souffert. Vous ne croyez quand même pas qu'on reste 4 ans, 5 ans en instruction, puis un mois et demi dans une salle de tribunal sans souffrir. On souffre de ce que vous écrivez tous les jours. On souffre des réseaux sociaux. Tout ce qui est insultant. Oui, j'ai souffert de ce que ma femme s'est auto-infligée et subie depuis. Oui, oui, on souffre. Oui, je souffre. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir le soutien de tous les Levalloisiens. Quand je rentre à Levallois, que tous les gens viennent me saluer, me dire on a besoin de vous. Ben oui, ça vous fait plaisir.
Patrick Balkany au micro de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. On prend des nouvelles des Bleus du foot qui jouent en Andorre ce soir et qui viennent de marquer un 4e but. A tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h09 et tout de suite le foot. En attendant les filles, demain face à la Norvège, deuxième match du mondial. Ce sont les garçons qui sont sur le terrain ce soir. Les Bleus jouent face à Andorre. Match qualificatif pour l'Euro 2020. Alors après leur défaite en Turquie, Cyril de la Morinerie, ils espéraient se faire pardonner et visiblement, eh bien c'est le cas.
Oui, on va les pardonner parce que les Français l'amènent 4-0. Alors certes, 4-0 face à la 134e nation mondiale, c'est sûr qu'il faut rester prudent. Mais ils ont mis les ingrédients dès le début de match avec beaucoup d'implication en mettant de la vitesse. Et c'est une équipe de France très sérieuse qui aurait pu penser à ses vacances, mais qui vraiment fait le boulot ce soir avec un Didier Deschamps qui n'a pas hésité à faire 7 changements pour redonner du tonus à sa formation. Et ça paye avec un but dès la 11e minute de Mbappé sur un raid presque solitaire. C'est Dembélé qui avait donné ce ballon à Mbappé qui est entré dans la surface de réparation sur le côté gauche et qui a trompé la vigilance du gardien andorran. Ben Yedder à la 29e a marqué son premier but en bleu sur une passe de Griezmann. Thauvin, lui, a marqué un très beau but à la 45e. Lui aussi, c'est un premier but en bleu pour Florian Thauvin d'un ciseau du gauche. 3-0 à la mi-temps. Et puis un quatrième but. Vous allez me dire c'est la soirée des premières parce que là, vous avez Kurt Zouma qui effectivement a marqué son premier but en bleu. Ça fait 3 joueurs qui ont marqué pour la première fois sur le maillot tricolore. Kurt Zouma, donc 59e minute. Corner de Griezmann. Et il va se reprendre. Il va reprendre à deux fois ce ballon. Une première tentative, ça ne marche pas. Mais sur la deuxième tentative, eh bien ce ballon va aller au fond des filets. 4-0. Sous une température, avec une température assez froide. Mais enfin les Français mettent beaucoup d'énergie et font des efforts pour rester chaud et pour marquer. marquer, pourquoi pas, un cinquième but. Hein. Mbappé a failli marquer un cinquième but pour l'équipe de France. 68 minutes de jeu et 4 à 0 pour les Français à Andorre, la vieille.
Marquer des buts, ça réchauffe, tant mieux. On espère qu'ils vont continuer. Merci Cyril, on vous fera un nouveau point avec vous sur cette rencontre, si vous le voulez bien, d'ici 22h30 et puis demain à cette heure-ci. Vous savez qu'on sera en plein match des filles face à la Norvège et on suivra ça évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Et cette question maintenant, Donald Trump va-t-il vraiment taxer le vin français sur le sol américain? C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans une interview. Et forcément, les viticulteurs français voient la chose d'un mauvais œil. Stéphane Place est le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
À l'origine de cette inquiétude, une petite phrase du président américain. « La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français. Ce n'est pas juste. Nous allons faire quelque chose pour cela. » Alors évidemment, Jean-Pierre Rousseau, qui dirige Diva, une maison bordelaise de négoce, redoute la menace de Donald Trump.
Je suis inquiet, d'autant que mon métier est d'exporter du vin dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis. À peu près 20% de notre chiffre d'affaires export, c'est pas du tout négligeable. Et surtout qu'on était en train de remonter sur ce marché, on a embauché une personne à cet effet, on prévoit d'en installer une autre sur place, ça tombe particulièrement mal. Imaginons qu'on double les taxes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles vont passer en gros de 10 à 15 cents à 20 à 30 cents. Sur une bouteille de petits châteaux, ça a une importance. Sur une bouteille de grand vin, c'est epsilon. Alors après, s'ils mettaient en place une taxation ad valorem, comme on dit, c'est-à-dire en fonction de la valeur du vin, là, ça pourrait être très très dévastateur.
Des menaces trumpiennes qui ont fait réagir le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis qu'il n'y aura pas d'accords commerciaux au détriment de l'agriculture européenne et de l'agriculture française. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Le loto du patrimoine 2019. Ça y est, on connaît les 121 sites retenus, ceux qui pourront donc bénéficier d'un coup de pouce financier, des châteaux, des églises, d'anciennes fabriques. Car si l'incendie de Notre-Dame de Paris a ému le monde entier, de nombreux monuments restent aujourd'hui en danger. Comme le rappelle Stéphane Bern, le patron de cette mission patrimoine, joint pour Europe 1 par Victor Delande.
Je sais que pour Paris, on trouve toujours de l'argent et j'en ai assez qu'on oppose toujours Paris, la province, que les villages se sentent délaissés. C'est vrai que moi, je galère pour essayer de trouver 20 ou 30 millions pour sauver les églises quand d'un coup de baguette magique, on trouve un milliard pratiquement pour Notre-Dame de Paris. Mais je pense qu'il y a plein d'autres Notre-Dame de Paris à sauver partout en France. Il y a ce que j'appelle les petites Notre-Dame, des églises qui ont 1000 ans d'histoire, qui n'ont pas démérité. Elles ne sont pas moins intéressantes sous prétexte qu'elles sont dans des villages de 100 habitants ou 200 habitants, mais qui, eux, on le sait, n'auront jamais les moyens par les contributions des administrés de trouver l'argent nécessaire pour la sauvegarde de leur patrimoine.
Stéphane Bern, joint pour Europe 1 par Victor Delande. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Les giboulées de juin, c'est un nouveau concept que l'on découvrira demain.
Et vous allez voir, Isabelle, que c'est très sympa les giboulées de juin. C'est surtout les régions du nord-ouest demain après-midi qui seront concernées. Quelle chance! Alors avant la séquence giboulée, on aura un ciel nuageux de la Bretagne au Poitou-Charentes jusqu'aux Landes, ainsi que du côté des frontières du nord-est, avec des averses sous les nuages bien gris. Ailleurs, ce sera un peu moins nuageux, mais toujours une averse possible. Ce serait dommage de s'en passer. Plus clair et sec du Pays Basque aux Alpes-Maritimes. Et puis l'après-midi, le ciel restera bien nuageux sur le nord-ouest jusqu'au Bordelais, le centre, la région parisienne et les Hauts-de-France. Et c'est là qu'on aura quelques averses orageuses accompagnées de grêles avec des bourrasques de vent. Et plus on ira vers le sud-est, plus il fera beau quand même. Les températures en légère hausse mais affligeantes toujours pour la saison avec 15 degrés seulement au maximum pour Cherbourg et Murat, c'est dans le Cantal. 16 à Brest et La Rochelle, 17 à Caen et Angers, 18 à Lille et Bordeaux, 19 à Paris ou encore à Bourges, 21 à Strasbourg et Toulouse, 22 à Lyon et Montpellier et tout de même 24 à 26 degrés sous le soleil méditerranéen. L'amélioration, elle se confirme tout de même sur l'est et le sud jeudi, instable sur le nord-ouest et puis un bel écart thermique entre l'ouest au frais et l'est au chaud. Vendredi, quelques nuages, quelques orages un peu partout, mais le week-end s'annonce beaucoup plus sympathique.
Ça, c'est une bonne nouvelle. La météo signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Hugo Ouvrard, le directeur de Xbox France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui marque une pause ce soir après une belle série de hausses.
Oui, il y a eu 6 séances de hausses consécutives. Il est temps de marquer une pause effectivement à Wall Street avec un Dow Jones qui cède 0,05%, une toute petite baisse, 26 048 points. Le Nasdaq monte quand même de 0,16%, une légère hausse, 7514 points. Donald Trump a continué de se plaindre sur Twitter de la politique monétaire de la Banque centrale américaine, jugée à ses yeux trop restrictive. Et puis du côté du commerce, rien de vraiment neuf dans le bras de fer entre Américains et Chinois. En attendant le prochain G20, ce sera fin juin au Japon. Le pétrole reste au-dessus des 62$, le Brent 62,50$, Exxon est stable, 74,84$ ce soir. Les valeurs technologiques sont plutôt fermes. On a Facebook qui gagne 1,8%, Apple plus 1,16% à 194,80$. Quelques baisses quand même, Microsoft moins 0,4%, Google moins 0,15%. Rien de vraiment sérieux sur les devises. L'euro campe au-dessus des 1,13, 1,1330 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a encore progressé en clôture.
Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui refranchit la barre des 5400 points en progression de 0,48%, 5408 points. Le marché est resté assez calme avec quand même quelques valeurs en vue comme Atari, plus 5% après un accord de distribution avec Walmart et GameStop aux États-Unis. Les pétrolières se reprennent un petit peu avec le baril. CGG plus 5,8%, Total plus 1,4%. Air France KLM remonte aussi de 0,7% après une progression du trafic passager de 4,8% au mois de mai.
Et l'exception du jour, Didier, c'est Vivendi qui a reperdu du terrain.
Une petite baisse, 1,4% de moins, 24,20€. Le broker Redburn a abaissé sa recommandation à vendre. Il faut dire que le titre Vivendi a progressé de plus de 15% depuis le 1er janvier. Et donc, ça donne une raison de consolider et de prendre quelques bénéfices. Vivendi en baisse ce soir d'1,4%. Sur les autres places financières, Francfort gagne 0,9%, Bruxelles plus 1%, Milan plus 0,6% et le CAC 40 donc en hausse de 0,48%, 5408 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur de Xbox France.
Bonsoir Hugues Ouvrard.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron de la division Xbox en France. Donc on parle bien évidemment des consoles de jeux du côté de chez Microsoft. Si on a eu envie de vous inviter ce soir et de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1, c'est que c'est en ce moment aux États-Unis le salon E3. Alors qu'Esaco, eh bien c'est tout simplement le plus grand salon des jeux vidéo au monde. Et vous, vous avez présenté vos toutes dernières innovations et notamment vous avez donné des détails sur votre console. Mais si j'ai bien lu, tout le monde est déçu parce que vous n'en avez pas dit beaucoup. Dites-nous tout ce soir sur Europe 1. À quoi va ressembler la prochaine Xbox ?
Alors c'est vrai que c'est la grand-messe internationale du jeu vidéo. Elle a lieu tous les ans. Et nous avons annoncé la sortie de notre prochaine console, qui a pour l'instant un nom de code qui est Project Scarlet. Elle sortira à l'automne-hiver 2020, donc c'est dans un peu plus de 16 mois maintenant. On a délivré quand même pas mal d'informations sur les capacités technologiques de la console. Et notamment sa puissance. Alors on parle beaucoup de 4K aujourd'hui dans les médias, mais elle va délivrer par exemple en termes de puissance graphique du 8K.
C'est à quoi ça nous, va nous servir pour nous joueurs?
La grande quête du jeu vidéo, c'est toujours l'immersion et le réalisme, et c'est également la quête des développeurs. Donc quand on met à leur disposition une console qui a une telle capacité technique, une telle puissance, en fait ça leur permet toujours d'aller chercher plus d'immersion et de réalisme dans des mondes plus larges. Et la petite différence dont on entend beaucoup parler en ce moment, et je suis certain que vous en avez entendu parler, c'est le cloud. Et la combinaison de cette console surpuissante et de la puissance du cloud va permettre d'avoir des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus réalistes.
Alors, ce qui est aussi intéressant dans les jeux, c'est que de plus en plus, on est sur des budgets comme au cinéma, avec des acteurs de cinéma. Puisque hier, avant-hier sur scène, vous aviez une personnalité bien connue, l'acteur Keanu Reeves, qui va être le grand acteur d'un des grands jeux qui sera disponible sur la plupart des consoles. Ça aussi, c'est capital de plus en plus d'aller chercher des acteurs de cinéma.
C'est absolument ça. Le jeu est de plus en plus immersif et de plus en plus réaliste. Et c'est normal qu'il se rapproche du cinéma. Keanu Reeves, l'acteur de Matrix, par exemple, était sur scène pour présenter Cyberpunk 2077, qui sortira dans un an. Et nous, on se rend compte qu'il y a eu réellement un changement de paradigme. Il y a quelques années, le jeu vidéo s'inspirait du cinéma et aujourd'hui ce sont les acteurs du cinéma qui veulent faire du jeu vidéo et qui viennent vers nous pour incarner des personnages de jeux vidéo. On a également annoncé sur scène un jeu vidéo qui serait inspiré de l'œuvre de George Martin, l'auteur de Game of Thrones. Donc vous voyez que Il y a vraiment aujourd'hui une interconnexion entre tous les médias. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo étant devenu le plus gros secteur de l'entertainment dans le monde, il attire tous les talents, y compris les acteurs, les réalisateurs et les auteurs.
On en parlait au tout début de cette interview, le cloud gaming. Alors c'est un bien gros mot pour dire que demain, on n'aura sûrement plus besoin de consoles, que tout sera dématérialisé, qu'on aura tous nos jeux également comme ça dématérialisés. Vous avez fait des annonces aussi en la matière, mais vous avez aujourd'hui un gros concurrent qui s'appelle Google et beaucoup disent « Ah, ils sont petits bras Microsoft là ».
C'est intéressant d'avoir un nouveau concurrent de la taille de Google qui rentre sur notre marché parce que déjà ça valide l'intérêt du marché pour les investisseurs et l'importance de ce marché quand vous avez des acteurs majeurs qui rentrent sur ce marché. Après c'est vrai que nous maintenant ça fait à peu près 40 ans que nous faisons du jeu vidéo, 18 ans que nous avons des consoles de jeu. On a une expérience dans le jeu vidéo qui n'est plus à prouver. Ce que l'on pense en fait c'est que pour réussir dans le jeu vidéo à l'avenir, c'est ce que disent tous les analystes financiers, il faudra rassembler trois compétences. Le cloud, et Microsoft est une des grandes compagnies dans le monde qui est capable de fournir du cloud, avec Google d'ailleurs, mais aussi deux autres facteurs différenciants qui sont très importants, une communauté de gamers, et nous avons déjà plus de 60 millions de gamers qui jouent sur Xbox en ce moment, et puis enfin des contenus, et nous avons 14 studios Xbox qui développent des jeux pour nos plateformes, ce qui n'est pas le cas de tous nos concurrents. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Microsoft est placé dans une position très intéressante. Je ne sais pas si c'est lié, mais le jour des annonces de Google, l'action Microsoft ainsi que l'action Sony et l'action Nintendo ont pris 2% à la bourse.
Si on compare toujours Hugo Vrard par rapport à la musique, par exemple quand on parle du cloud gaming, hein, ce gros mot dont on vient de beaucoup parler, c'est comme si on le comparait au streaming à la musique, c'est-à-dire qu'on est abonné, tout est dématérialisé. C'est ça l'idée demain pour le jeu vidéo. Finalement, je jouerai au jeu vidéo comme j'écoute de la musique aujourd'hui.
C'est totalement ça. Aujourd'hui, la majorité de la musique dans le monde est consommée de façon digitale et par abonnement. De la même façon que la vidéo est consommée principalement par abonnement et de façon digitale, et il n'y avait donc aucune raison, on s'adresse à peu près au même type de consommateur, il n'y avait aucune raison que le jeu vidéo ne suive pas à terme cette direction-là, et nous y voilà. Nous avons annoncé hier, bien sûr, on en parlait, le cloud gaming, c'est la partie technique qui va permettre de rendre cela possible, mais la partie produit qui va permettre de rendre cela possible, c'est l'autre annonce que nous avons faite hier, qui est celle du Xbox Game Pass, et en fait un principe de jeu par abonnement très semblable à Netflix, dans lequel vous avez un très grand nombre de jeux pour 10 euros par mois.
Eh ben merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous depuis les États-Unis et ce fameux salon de l'E3, le plus grand salon pour le jeu vidéo au monde. Hugo Vrard, le patron de Xbox France, était donc notre invité. Un grand merci à Clément Lesaf qui a rendu possible cette interview ce soir. On se retrouve après-demain, puisque, attention, demain soir, il y a un nouveau match de l'équipe de France de football des Bleus. On va bien évidemment à nouveau être derrière elle à Europe 1. Elles seront face à la Norvège. À jeudi sur Europe 1.
Évidemment, on vous dit à jeudi. Merci beaucoup Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau, selon vos besoins, à n'importe quelle heure de la journée.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Corps malade, titre Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Urgence aux urgences. C'est pas faute d'avoir donné plusieurs signes d'alerte ces dernières années, tant la maladie n'est pas tombée de la dernière pluie, mais plutôt de la saignée prescrite dès la loi Bachelot à l'hôpital public, transformant ce dernier en entreprise, soumise donc à un impératif de rentabilité. Mais à trop tirer sur la corde, elle finit par céder. Les brancards s'accumulent aussi sûrement que la colère blanche. La ministre parle d'un traitement long, alors que le personnel, à bout, réclame un traitement de choc. Acte 2, Philippe face à un champ de mine, titre le journal L'Opinion. Le Premier ministre lance demain devant l'Assemblée nationale le deuxième temps du quinquennat, son deuxième discours de politique générale. Des retraites à la PMA, les réformes à venir s'annoncent aussi fondamentales que clivantes. Renforcé, Édouard Philippe veut relancer les réformes, écrit pour sa part le Figaro. Retraite, justement, le déficit qui complique tout, titre le Dauphiné libéré. Alors qu'Emmanuel Macron expliquait encore récemment qu'il pouvait présenter dès cet été sa refonte du système, puisque les retraites n'étaient plus un problème financier, eh bien voilà que la donne vient de changer. Le Conseil d'orientation estime en effet que le déficit des retraites atteindra 10 milliards d'euros en 2022, au lieu des 5 milliards prévus, autrement dit, deux fois plus. En finir avec le plastique, c'est à la une du journal La Croix. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, dit le rapport de la Fondation Hélène MacArthur. Il faut de toute urgence en freiner l'usage. Plastique, la cote d'alerte qui inquiète l'industrie, titre également les Échos. La production de plastique reste en forte croissance dans le monde. Les fabricants prennent conscience qu'ils sont menacés à terme et commencent à s'adapter, tandis que la pollution tourne au désastre écologique. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et avant de retrouver Sophie Peters, on va rapidement faire un nouveau détour par Andorre. Cyril de la Morinerie, le match de préparation des Bleus pour l'Euro. Alors,
et oui,
ils rachètent
raison,
largement que... leur prestation en Turquie. Hein.
Oui, alors ils n'ont pas marqué de but depuis ma dernière intervention, mais ils mènent 4-0. Donc c'est une petite promenade de santé pour les Français qui ont marqué 3 buts en première mi-temps et un but en seconde avec des réalisations de Mbappé, hein, Ben Yedder, Tovin et Kurt Zouma. Ben Yedder, Tovin, Kurt Zouma, première fois qu'il marque avec le maillot tricolore. Didier Deschamps qui en profite pour réaliser quelques changements, sortis de Ben Yedder, de Tovin, de Dombélé, remplacé par Lemar, par Sissoko et puis par Giroud qui va essayer de marquer lui aussi son but. Une équipe de France voilà, qui est très sérieuse ce soir. Malgré un contexte compliqué, on rappelle que c'est un gazon synthétique, c'est une enceinte de 3300 places. On n'a pas l'habitude d'avoir des matchs internationaux dans ces stades. Même en Moldavie, le stade était de meilleure qualité, plus grand. En tout cas, voilà, cette équipe d'Andorre n'est qu'une seule occasion. Mais il y a eu un petit événement dans cette partie. Il y a un instant, l'entrée de Rulli Sanchez. Je vous en parle parce que Henri de Laguerre, qui est l'un de nos spécialistes en Espagne et du football andorran, m'expliquait que ça faisait 23 ans qu'il était... qui portait ce maillot. Il a 40 ans ce soir, il va jouer son dernier match et il a joué le premier match de l'histoire de cette sélection d'Andorre qui pour l'instant a bien du mal face aux champions du monde. Ils sont menés 4-0 et peut-être que Giroud va marquer de la tête l'arrêt du gardien. 4-0, 87 minutes de jeu, ce sera bientôt les vacances dans 3 minutes. Des vacances bien méritées pour les Français.
Et pour vous aussi, j'espère. Merci Cyril de la Morinerie, vous embrassez Henri de Laguerie pour nous. Très belle soirée.
À côté de moi.
Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve tout à l'heure à 23h pour faire un nouveau point sur l'info.
Absolument, à tout à l'heure.